Chapitre 14e. Comment un mort reste vivant. Ce qu'il y a de plus drôle, me dit par la suite Martin Dumas, en me racontant cette aventure, ce fut le repêchage du rouquin. Comment, vous l'avez laissé dans la mare ?
Mon Dieu, oui, fit tranquillement le roi des détectives. J'ai pensé que pour ce garçon, ce serait la meilleure solution dans la mare. Mais s'il était mort, et s'il m'avait tué, moi ?
Très juste. Martin Dumas reprit.
Mon coup de pied l'envoya assez loin.
Nous n'avions d'ailleurs rien qui nous permît de tenter le sauvetage.
Ce n'était pas notre affaire. Cela regardait ses complices, le commandant, s'il tenait à conserver ce collaborateur.
Mais vous, peu vous importait en effet.
D'ailleurs, que lui aurions-nous réservé au rouquin,
en admettant que nous l'eussions empêché de tourner à la grenouille,
la prison ?
Or, précisément, je ne pouvais le mettre en prison, parce que le rouquin et ses complices avaient commis une nouvelle tentative d'assassinat sur la personne d'un homme qui est officiellement défunt.
Ah oui, en effet.
Eh bien, si j'avais arrêté ces malfaiteurs déjà lors de l'attaque des peintres, quand les Anglais, dont le rouquin faisait partie aussi, nous ont voulu toxir,
je me souviens. Si je les avais arrêtés, voyez quelles complications. Il aurait fallu forcément donner une raison à leur arrestation,
naturellement.
Donner fatalement le nom de ces peintres appelés à la barre ou représentés par des avocats, d'autant plus que les inculpés auraient pris un défenseur.
Ou que la loi leur en imposait un d'office,
ce qui revient au même.
Et un défenseur ne se serait pas gêné de nous dire qui son client avait attaqué,
de révéler, ne fût-ce que pour causer de l'ennui, le nom vrai du peintre,
de tout découvrir.
Il n'y aurait pas manqué, certainement.
Alors, vous voyez quel ennui pour moi.
En ce moment, je suis mort, et on me laisse tranquille.
Martin Dumas ajouta,
« Oui, c'est bon d'être mort. Il y a beaucoup d'avantages. »
Et le roi des détectives conclut,
donc j'ai dû laisser aller ces gens.
Et après leur avoir administré la bonne volée que vous savez.
Si vous aviez pris le chef, le commandant.
Alors tout aurait pu être changé. Encore faut-il que j'aie sur le commandant un peu plus de documents que je n'en possède actuellement.
Voyez-vous l'éclat de rire qui accueillerait ma résurrection si je faisais en quelque sorte joue blanc?
Mais, fis-je observer, vous avez cependant quelques prisonniers maintenant.
Mais là, Martin Dumas n'aura pas à sortir de sa tombe.
Comment cela ?
Ces gens sont des cambrioleurs,
qui se sont mal adressés, qui sont tombés dans une villa bien gardée.
Martin Dumas n'a pas à intervenir.
Vous y étiez cependant,
sans y être, tout en y étant.
Ce qui veut dire
que Prosper et Philippe s'y trouvaient, et mon ami Courville.
Mais vous, non.
On a pris un de mes hommes pour moi.
On a cru reconnaître Martin Dumas, mais on s'est trompé.
À la mare aux biches, c'est le savant, M. Delphin, l'entomologiste, qui a été attaqué.
« Monsieur Delphin, aurait déclaré les bandits, c'est Martin Dumas. Et me voilà revivant et absolument contrarié. Tandis que les laissant courir, je ne m'expose pas à une divulgation. J'ai donné à ce rouquin la correction qu'il méritait. »
Martin Dumas me dit ensuite que depuis longtemps il soupçonnait le piège qui lui était tendu.
« Oui, dit Martin Dumas, je dois reconnaître que malgré le soin que j'ai apporté à mon déguisement, ils m'ont dévoilé, ils ont vu qui se cachait sous cette enveloppe de savant. »
D'herboriste de première classe, d'entomologiste distingué.
Ah, vous l'avez compris.
Ils sont très habiles. Je croyais cependant garder mon incognito un peu plus longtemps.
Tant pis.
Puis, ayant à son habitude allumé une nouvelle cigarette, après un court silence, Martin Dumas reprit.
Donc, il ne fallait pas être très fort pour deviner aussi le jeu de mes adversaires.
Le rouquin n'est pas de taille.
Et je m'amusais de sa figure.
Il voulait se persuader que vous ne l'aviez pas reconnu.
Car il s'était teint les cheveux en noir,
mais le rouquin n'avait pas pensé atteindre également les sourcils.
Martin Dumas reprit.
Oui, oui, nos ennemis ont eu le tort, d'abord de croire que je ne pourrais reconnaître le rouquin, qui depuis quelque temps ne s'était fait voir nulle part. Le rouquin, depuis son équipée anglaise, a dû se faire soigner, car c'était lui la vilaine miss.
Vraiment, ces gens croyaient, dit Martin Dumas, que je devais donner dans leur piège. Ils ont su que nous nous étions, mes hommes et moi, pour l'affaire de la table du grand maître, vêtus en garde forestier. Ils ont trouvé cette idée excellente,
et ils l'ont adoptée.
D'autant plus facilement qu'ils pensaient que, nous l'ayant déjà utilisée, nous ne penserions pas qu'ils l'adopteraient à leur tour.
Voilà donc un garde qui se trouvait comme par le plus grand des hasards à la mare aux biches.
Précisément quand vous deviez y aller avec le rouquin.
Vous savez, mon cher Courville, que je nie le hasard.
Oui. Celui-ci, cependant, pouvait n'être pas tout à fait un hasard, car rien n'empêche un garde forestier de se trouver à la mare aux biches.
Évidemment non. Mais il ne suffit pas de l'habit pour être moine, s'habiller en garde forestier, et ne pas commettre des fautes que jamais ces braves gens ne commettront.
Voyons,
D'abord, le garde était assis. Jamais un garde n'a été vu assis et se reposant comme un touriste. Chez les gardes, c'est un point d'honneur de ne jamais s'asseoir dans la forêt. Pourquoi cela? Parce que le garde, dans la forêt, est en service. Il remplit son devoir. Il surveille la forêt. Or, un garde ne doit pas s'asseoir pour accomplir sa ronde. En effet. Donc, première faute. Un garde assis ne s'est jamais vu. Chez lui, oui. Dans la forêt, il marche. Secondement, jamais un garde ne fume la pipe dans la forêt. J'entends la pipe comme celle que ce singulier garde tenait dans ses dents. Les pipes des gardes sont toutes avec un couvercle qui empêche la cendre inflammable de sortir du fourneau. Il faut les yeux de Martin Numa pour voir tout ça. Encore autre chose. Les gardes sont généralement polis. Vivant seuls de longues journées dans la forêt, quand ils rencontrent quelqu'un, c'est pour eux non seulement une obligation de politesse, mais un plaisir de rompre le silence, de dire bonjour, d'échanger quelques mots. Or, mon garde avait l'air d'un porc épic. Tout cela vous faisait voir que ce n'était pas un garde. Et je n'eus pas de peine à reconnaître les yeux du commandant sous la casquette de garde. Tout autre n'aurait pas remarqué cela. Attendez, le commandant étant là, je pensais que le guet-apens était organisé. Il ne devait pas être seul. En effet, le rouquin s'était mis à siffler des airs de chasse. On lui répondit. Ses compagnons? Oui. Vous ne pouviez les voir? Non, pas tous. J'en voyais quelques-uns de l'autre côté de la mare. Ils s'apprêtaient à venir à moi, et le commandant allait également me rejoindre. Mauvaise position. Oui, mais pendant que je regardais avec une loupe un insecte quelconque que je venais de saisir, j'ai vu, tout en tournant le dos au garde forestier, j'ai vu ce garde faire derrière moi des signes désespérés au rouquin. Comment avez-vous vu cela? J'avais dans la main tenant l'insecte un miroir pour me donner tout ce qui se passait derrière moi. Vous êtes surprenant, mon cher. J'ai cru deviner, au geste du garde forestier, que quelque chose d'anormal, d'important, de dangereux se passait. Une alerte se produisait. Peut-être le commandant avait-il reçu des gens suspects et n'avait pas entendu le signal de ses hommes le rassurant, lui disant que tout allait bien, qu'on pouvait marcher. C'est pour cela que, sous prétexte de me faire entendre l'écho, le rouquin se mit à crier. On lui répondit. Oui, on lui répondit, mais par une plaisanterie. Plaisanterie que lui ne pouvait comprendre, mais qui, pour moi, avait grande importance. Pourquoi? Parce que c'était Julot qui la faisait, et que la présence de Julot signifiait que mes hommes étaient à leur poste. Bravo! De mon côté, j'avais préparé mon coup de la marobiche. Extraordinaire. Cependant, mes hommes, exécutant mes ordres, surdonnaient toute confiance aux bandits. Peu après, en effet, nouveau signe du garde forestier disant qu'on pouvait y aller. L'alerte était passée. Vous, pendant ce temps? Moi, pour inspirer plus de confiance au rouquin, je lui avais confié mon piolet, qui pouvait être une arme de défense merveilleuse. Je n'avais pour toute arme que mon filet à papillon. Franchement, je n'ai pu m'empêcher de rire en écoutant Martin Numa me faire ce récit. Rire et en même temps l'admirer. Faisant cela, reprit Martin Numa, qui sans doute lut ma pensée dans mes yeux comme cela lui arrivait fréquemment. Faisant cela, je donnais à mon ennemi une arme contre moi, c'est vrai, mais une arme que je connaissais, dont je connaissais la valeur, la portée, le maniement. Je savais dans quelles conditions seulement il pouvait l'employer. Et comme c'était une arme dangereuse, terrible, il devait la préférer à toute autre. Par conséquent, ne plus penser soit au couteau, soit au revolver, mais à une autre arme que j'ignorais et contre laquelle je ne pouvais me défendre. Très juste. Donc, connaissant mon ennemi, connaissant son arme, j'étais déjà très fort. Je n'avais plus qu'à tendre mon piège. Ce piège était... Je tins mon filet à papillon au-dessus de moi, en oblique. Au-dessus de votre tête, mais de dos. Le bâton du filet me protégeait contre un coup de piolet qu'il devait amortir tout au moins. Je m'accroupis et me penchai vers l'eau. Ainsi, j'exposais mon dos au couteau ou au poignard du garde forestier s'il venait jusqu'à moi. Mais j'avais sur le dos mon bissac, ma boîte à herbes en fer. « Une cuirasse » m'écriai-je. « Parfaitement. Penché sur l'eau avec mon petit miroir, dont on ne pouvait soupçonner l'existence, je voyais tout ce que faisaient mes ennemis. Je suivais leurs mouvements. Aussi, quand le piolet se leva sur ma tête, je n'eus qu'à faire un léger écart, un petit saut de côté pour éviter le coup. Le piolet retomba avec force, mais me manqua. Admirable. Vous jugez alors de l'étonnement, de la stupéfaction du rouquin qui se croyait absolument sûr de son coup de piolet. Oui, je vois sa tête. Au lieu du crâne de l'entomologiste distingué, ce fut le rocher que le pic rencontra. Au lieu d'une bouille de cervelle remplie de science, ce fut un millier d'étincelles qui jaillirent. Le rouquin n'était pas encore revenu de sa surprise que sa vilaine tête, dont les yeux clignotants se fixaient ahuris sur le piolet, se trouvait prise dans mon filet à papillon. C'était absolument comique. Maintenant, vous savez le reste. Martin Numa alluma une nouvelle cigarette et se mit à marcher selon son habitude dans la pièce. c'était nous faire entendre qu'ils ne voulaient plus qu'on s'occupât de cette affaire. Prosper et Philippe, eux, pensaient, et je fus absolument de leur avis, que les deux camps de bandits se piquaient d'amour-propre. Le camp dissident avait gravement endommagé l'un des lieutenants de Martin Numa. Le premier camp ne voulait pas rester en arrière ni tarder à prendre une revanche et à montrer qu'il pouvait mieux faire. Il s'attaqua à Martin Numa lui-même. Encore une fois, il ne devait pas réussir. Mais cependant, quelle imprudence du roi des détectives qui, en somme, se livrait ainsi à ses ennemis qui s'exposaient à leurs coups. Maître de ses nerfs, conscient de sa souplesse, de sa force, de son habileté, il pouvait échapper. Mais comme dit Prosper, le chef ne comptait jamais avec le hasard. Enfin, cette fois encore, cette théorie de l'imprudence mise en pratique avait donné de bons résultats. Nous ne pouvions la combattre, la trouver mauvaise, la déclarer dangereuse.